Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignage d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives et la région Languedoc-Roussillon. Aujourd'hui, les souvenirs d'enfance. L'Espagne d'avant 1936 est encore un pays essentiellement agricole. En 1931, on compte 8 millions de pauvres sur une population de 11 millions d'actifs, dont 2 millions de paysans sans terre et 1,5 million de paysans aux parcelles trop petites pour en vivre. Plus de la moitié du sol d'Espagne appartient à la noblesse et l'Église n'est pas loin d'être le plus gros propriétaire foncier. Misère, analphabétisme, violence des rapports sociaux. En 1929 en Castille, 850 000 chefs de famille sur 1 million vivent avec un salaire journalier de moins de une pécette. La République construit 13 000 écoles, un défi à l'Église qui en avait le monopole, mais manque à mener à bien la réforme agraire. Le putsch de Franco contre la République provoquera la guerre civile.
Voilà, je commence. Souvenirs de l'enfance.
Francisco Lara, 94 ans.
Je me souviens de quand j'avais 8 ans ou 10 ans, on jouait à Pidola. Pidola, c'était un jeu que c'était, je crois, qui était partout dans le monde. On se mettait comme ça.
Accroupi, à saute-mouton.
On sortait. On appelait ça Pidola. Mais en andalou, on disait Piola. Mais les garçons, ensemble. Jamais garçon et fille, jamais. Mais on voyait les filles chanter aussi. Il y avait une chanson qui disait « Donde están las llaves ?»« Matarile, rile, rile, donde están las llaves ?»« Matarile, rile, ro. » Et alors, il dessinait, c'était les filles, hein. La qui avait dessiné, c'était elle qui commandait. Les garçons, c'était pas ça. Les garçons, on était un peu brutes, hein. On faisait un cercle assis par terre, 8 ou 10, comme ça. Il y en a un, debout, qui tournait autour. Il avait une alpargata à la main. Il la laissait tomber dans le dos. Il continuait. Celui qui l'avait dans le dos, il ne le voyait pas, il faisait. Il l'attrapait et il le tapait sous les dos. Il fallait que tout le monde regarde. Hein. Et après, c'était lui qui prenait et faisait la même chose. Voilà, déjà. Mon premier travail, j'avais peut-être 12 ans. J'ai ramassé les balles de tennis dans une société de tennis qu'il y avait à Tétouan. C'était la société hippica. Ça veut dire une société pour le cheval. Mais il y avait des jardins. Il y avait aussi des tennis et des frontons. Et la pelota basque. Alors, on me payait une peseta par jour. Hein. C'était beaucoup, hein.
Arthur Kiris-Courriguel.
J'étais fils unique. Mes parents vivaient à Barcelone. Et de l'âge de quelques mois jusqu'à 5 ans, j'ai été élevé en nourrice à 40 km de Barcelone, chez une paysanne. Et les souvenirs que j'ai de mes parents, c'est que quand on entendait la voiture qui amenait ma mère de loin, on m'enlevait les vêtements que j'ai portés de mon frère de lait, en velours, les espadrilles, tout ça, et on m'habillait en blanc. Ma mère arrivait, une dame très élégante, elle m'embrassait, mais ma mère n'embrassait pas beaucoup. Elle ne savait pas embrasser. Et c'était joue contre joue. La manourisme me donnait à l'amour qu'elle m'a jamais donné. Ma mère, même de grand, j'avais 20 ans qu'elle m'assoyait dans ses jupes, et puis elle m'embrassait. Mais la loi veut qu'il faut aimer sa mère. Oh, mais moi, j'ai aimé beaucoup plus ma nourrice. Et puis, quand ma mère partait, elle devait la payer, elle me laissait de jouer, que je ne m'en servais pas. Et bien, tout de suite, on m'enlevait les machins blancs et à courir. Ça, c'est le souvenir qui m'a le plus frappé, parce qu'un jour, monsieur et dame sont venus me chercher, qui étaient mon père et ma mère. J'étais bien, mais à Barcelone, je vis que je ne revenais plus chez ma nourrice. Je me rappelle d'avoir pleuré beaucoup, 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 à tel point que ma mère a été obligée de faire un pacte avec ma nourrice et je vécis avec l'amour de ces deux femmes. Voilà mon souvenir. Donc déjà, c'est compliqué.
Et quand vous pensez à cette période, est-ce qu'il y a des chansons qui vous reviennent ou des odeurs ou des,
Ah oui, des odeurs, beaucoup. Vous savez, la nature en Catalogne, mon pays natal, c'est comme au Pays Basque de mon père, elle a une odeur. Ça sent les pins, la terre, avec le soleil, elle a une odeur. Ces odeurs m'ont beaucoup... Je ne les ai pas oubliées quand j'y vais. Vraiment, ces odeurs, même par exemple certaines confitures, ma nourrice faisait de la confiture de tomates. Et bien ma femme, si elle veut me faire plaisir, il faut qu'elle fasse de la confiture de tomates. Et là, je revis cette époque.
Carmen Plaza.
On habitait chez ma grand-mère. On a toujours habité avec elle. On a tout le temps habité avec elle. Mon oncle et un autre oncle qui était moitié aveugle. Il n'était pas bien, il était...
Handicapé mental.
Handicapé, voilà.
Toute ta famille travaillait à la sucrerie?
Non, il y avait mon père et puis mon oncle. Et mon père, il faisait n'importe quoi. Ce qu'il pouvait trouver au travail. Hein. Et autrement, l'été, il avait vendu des cacahuètes. Mais il vendait ce qu'il pouvait pour pouvoir nous nourrir. En plus, on était avec ma grand-mère et on était nourris par elle. Sinon, c'est pas avec mon père tous les ans qu'il y en avait un enfant, un qui naissait, l'autre qui mourait. Tous les ans, il y en avait un qui venait au monde. Mais je me rendais même pas compte, je voyais même pas ma mère enceinte. Mais tu vois, non. Avant, c'était pas comme les gamins d'aujourd'hui, on était tout idiots, tout innocents. Tout. On était dans un petit village, et puis nous ont amené à Castellón de la Plana, parce qu'on avait la gala. Et moi, c'est la première fois de ma vie, que j'avais... rentré dans une baignoire. Voilà que le médecin, pour me soigner, le médecin, eh bien, il a fallu que je me déshabille. Je ne voulais pas, j'ai pleuré, j'avais 14 ans à ce moment-là. Et je ne voulais pas me déshabiller, je pleurais. Et j'étais obligée de me déshabiller. Et il nous lavait, et puis après il nous mettait une pommade. On a eu la gala. Et chez nous, on n'avait pas d'eau, on allait dans une fontaine. Où il fallait attendre son tour pour aller chercher de l'eau. C'est moi qui allais chercher de l'eau. C'est moi qui l'avais à la rivière, j'étais loin. Ça, c'était bien avant la guerre, bien sûr. Un jour, je me suis trouvé mal, une fois que j'ai fini de laver. J'ai tombé dans les pommes, sur le chemin, avec mon tas de linge mouillé. On m'a gardé pour travailler d'abord à la maison. Et puis, voilà.
Faire quoi d'autre?
Pour faire faire ce qu'il y avait à faire dans une maison. On m'envoyait au marché, à la place, on disait. C'était au marché couvert. Bien bonheur pour que tu sois dans les premières pour aller chercher des feuilles de choux parce qu'ils coupaient les enlevaient les feuilles des choux pour les lapins. Parce que ma grand-mère et mon oncle avaient des lapins. Eh bien, il fallait que tu sois dans les premières, sinon les feuilles, il y en a d'autres qui les amenaient. Mais un grand sac, bien plus grand que moi, hein. C'était pas bien lourd, si tu veux. Pour moi, c'était assez lourd. Parce que j'étais... Bon, mais on m'envoyait. Mais on travaillait avant, c'est pas comme les enfants aujourd'hui. Hein. Parfois, j'allais jouer avec les autres, les copines dans la rue, mais on me laissait pas souvent.
Vous alliez à l'école ?
Mais non, je suis allée un peu avec les bonnes sœurs, à peine un an, mais c'était pas pour apprendre à lire. Les...
C'était une école payante ?
Non, non, non. Ils prenaient que ceux qui étaient un peu malheureux, quoi. Et ils nous ont pas gardé longtemps. Bon, un an, peut-être un peu plus, mais un an et demi. Ouais. Et après, c'était fini, on a voulu plus de nous, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'était à cause de... parce que mon père était syndiqué, j'en sais rien. Je ne peux pas te dire plus. Je sais qu'il était délégué du personnel.
Ce n'est pas les parents qui vous ont retiré?
Ah ben non, les parents nous ont laissé. Tu penses, on mangeait à midi déjà. Et en partant, à 4h, ils nous donnaient un gros morceau de pain. Et en face, il y avait... Quand on sortait en face, il y avait une usine d'huile d'olive, et on allait tremper le pain dans l'huile d'olive. Et on était contents comme tout, on s'en allait dans la rue en train de manger notre pain, trempé dans l'huile d'olive. Ah mais oui, mais les parents nous allaient laisser, mais ils n'en voulaient plus nous deux. Pendant deux ans, il y avait en hiver, on allait ramasser les olives, deux ans avant la guerre. Et celui qui nous surveillait, il disait « Carmencita, aquí te has dejado una. » Tu penses, j'avais laissé une olive. On ramassait avec l'Antonio et le Pepe. Bon, on ramassait, j'avais laissé une olive par terre. Hein. Et comme ma mère restait à la maison, dans la ferme, pour faire à manger, elle n'allait pas ramasser les olives. Avec ma petite sœur, qui avait peut-être un an et demi, deux ans, eh bien, figure-toi, elle s'est échappée de la maison, puis elle est tombée dans une rivière qui avait pas loin. Elle s'est agrippée à des ronces. Quand ma mère s'est rendue compte qu'elle n'était pas là, elle l'a cherchée partout, elle l'a trouvée dans la rivière. Et al rio, on était agarrada, una salsa. Donc c'est une ronce. Et figure-toi que l'année d'après, eh bien, j'ai pas été aux olives. J'étais obligée de rester à la maison avec ma grand-mère pour garder ma petite sœur. Donc ma petite sœur, je le dis souvent, je suis ta deuxième mère. Hein. Et quand ils étaient là à la maison, quand on n'allait pas aux olives, c'est moi qui s'occupais d'elle aussi. Qu'il fallait que je l'endorme avec moi, en la versant, dans mes bras. J'ai 9 ans de plus qu'elle.
Ces photos, j'avais 12 ans.
Mariano Constante.
Là, c'était mon père, ça c'est moi, mon frère le troisième, le quatrième et ma sœur.
Et elle date de quelle année, pardon?
1932.
C'est... Donc vous êtes né en 1920.
Exactement, je suis né en 1920. Et à 8 ans, quand vous avez 8 ans, comme la majorité des gosses et tout, moi, j'aimais bien me mêler de ce qui ne me regardait pas, parce que j'étais trop jeune. Mais, par exemple, un jour, je vois un groupe d'ouvriers, de l'usine de Pechiné, les poches de pantalons pleins de bourrées de pierre, et ils se sont mis en haut de del gallego. Le cours du gallego, c'était quand même plus de 100 mètres en dénivellation par rapport à la plaine qu'il y a. Ils ont commencé à lancer des pierres depuis le haut des machins. Et moi, rigolant comme ça, à 8 ans, Et je lui dis, mais vous avez lancé, jamais vous avez lancé des pierres, laissez-moi vous, vous allez voir. Moi, je commence, la première pierre que je lance, pam, un carreau de l'usine, que je les casse. Bon, tant et si bien que j'en ai cassé une vingtaine. J'entendais tellement à la maison parler de la lutte des ouvriers, et je voyais comment ils vivaient, dans quelles conditions ils vivaient, ceux qui venaient, par exemple, des Bas-Aragon, là où ils étaient pauvres, mais misérables. Hein. Et je voyais bien dans quelles conditions ils vivaient les familles. Alors ça me faisait vraiment inimaginable ce que ça a fait. Et ils sont tous taillés, ils sont tous partis en courant, les ouvriers qui avaient fait ça. Mais moi, je restais tout fier, je restais là-dedans. Et la garde civile qui s'amène, oh putain. Alors là, ça a été évidemment, ils m'ont arrêté moi, ils m'ont amené sur les niveaux, et aussi ceux qui sont allés chercher mon père. Et comme mon père, il avait déjà son passé, bon, ben, ils m'ont mis à Jaca. C'est-à-dire, Jaca, c'était le chef-lieu de canton de toute la région. Mais c'est pour dire que socialistes et communistes, toute ma famille, c'était socialistes et communistes, tous. Alors, on m'a fait la morale, on m'a menacé sur tous les gardes civils, parce que je dis ça parce qu'il y avait des gardes civils qui avaient une gueule patibulaire, comme on dit ça en Espagne. C'était vraiment des sauvages. Et c'est comme ça que se conduisaient, comme des sauvages. Un coup par-ci, un coup de pied aux fesses d'un autre côté, vous savez, c'était... Ah oui, ça m'est resté, ça m'est resté. Je vous dis que ça a été une des principales choses. J'étais arrêté, nous avons été 4 jours, et mon père, évidemment, il n'a pas fait l'école pendant ces 4 jours, il n'a pas fait l'école parce qu'il était là en attendant, parce qu'il manquait peu. Il est le maestro, le fils d'un instituteur, il est en tôle.
Josep Sangenis.
L'école moderne, c'est la pédagogie de Francisco Ferrer y Guardia qui a été fusillé à Montjuïc pour ses idées anarchistes. Quand nous voulions étudier la flore et les animaux, nous allions à la montagne et nous étudions les fleurs et les bêtes que nous voyons, les oiseaux et tout ça. Il était interdit de cueillir une fleur. Et si on en cueillait une, c'était le maître qui la cueillait. Et ensuite, en classe, on faisait un cours sur ce que représentent ces fleurs. À l'école aussi, nous étudions l'astronomie. Nous avions une lunette de cuivre, tu sais, comme dans les films de pirates. Et on regardait la lune. Et naturellement, il nous semblait qu'elle partait, la lune. Quand on étudiait l'anatomie, on allait dans une clinique ou dans un hôpital. Nous voyions des gens bien malades, des gens qui toussaient. Et pourquoi toussent-ils ? Parce qu'ils fument. Et donc, il ne faut pas fumer. Le maître fumait, hein. Il était malade, mais il fumait. C'était une jolie contradiction. Le travail est mauvais, mais tout le monde travaille. Fumer est mauvais, mais beaucoup de gens fument. La police est venue et elle a mis le maître en prison. Les enfants allaient le voir et lui emmenaient des petits riens. Et je me rappelle que je lui ai fait un dessin. Je lui ai fait une cage à oiseaux, et la porte était ouverte. Et je voulais que l'oiseau s'échappe de la cage. Et j'ai dit au maître qu'il s'échappe de la prison.
Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon, témoignage d'exil de 3 générations. Les souvenirs d'enfance.
Un documentaire de Marianic Bello et Benjamin Van Mingom pour Radio Languedoc et la Fédération des radios associatives du Languedoc-Roussillon. Ambiance sonore d'Arte Radio. Mixage Anne Fleury. Avec Francisco Lara Campoy, Arthur Kiriescorigel, Carmen Plaza, Mariano Constante et Giuseppe Sangenis. Témoignages recueillis par Giulia Taurigna, Manuel Plaza et Marianic Bello. Musique, Guillaume Séguron. Mémoire des républicains espagnols en Languedoc-Roussillon. Témoignages d'exil de trois générations. Une série documentaire coproduite par la Fédération des radios associatives non commerciales du Languedoc-Roussillon et la région Languedoc-Roussillon, Direction de la culture et du patrimoine.